tous les podcasts D38, radiogrenouille.com.
Bonjour à tous, vous écoutez la deuxième émission de Profession chercheur sur les ondes de Radio Grenouille. Dans le cadre d'une formation doctorale, nous nous sommes réunis, 11 étudiants chercheurs, pour construire ensemble une émission de radio. Même si novices des médias, sous l'encadrement de spécialistes de la communication, nous avons su mettre à profit notre pluridisciplinarité et nourrir un débat autour du quotidien du chercheur. Depuis les méthodes de travail d'un chercheur jusqu'à sa légitimité dans l'espace public. Discussions, disputes, écriture et improvisation sont les exercices auxquels nous avons été soumis. Nous avons dû apprendre à nous connaître, à se familiariser avec l'univers de la radio, à entendre nos propres voix pour la première fois, afin d'animer ce débat et de vous offrir cette séquence de témoignages tirés de nos propres expériences et de nos passions pour la recherche.
On s'imagine souvent un chercheur comme un monsieur en blouse blanche, tout savant, peut-être même tout puissant, qui occupe ses journées à s'écrier « Eureka !» Qui sait pourquoi la terre est ronde et pourquoi les poissons ne sentent pas bon. Mais on se trompe, car premièrement, le chercheur peut être une madame aussi. Deuxièmement, car le chercheur n'occupe pas ses journées à s'écrier « Eureka !» mais à se demander « Pourquoi ? Pourquoi ?» Pourquoi la terre est-elle ronde ? Et nom de Dieu, pourquoi les poissons sentent-ils si mauvais ? Le chercheur n'est pas un savant qui a une réponse à tout, mais quelqu'un qui s'interroge, qui cherche. Et quand celui-ci trouve une réponse à ses questions, ce n'est pas toujours en résolvant une équation mathématique devant un tableau noir que lui seul peut comprendre. Non, mais souvent frappé par une intuition en partageant un café ou une raclette avec des amis, la famille. Ah ben oui, la gravité, ça expliquerait pourquoi elle est ronde. L'équation mathématique incompréhensible n'arrivera plus tard que pour confirmer cette intuition. Quant à savoir pourquoi les poissons sentent-ils si mauvais, ma grand-mère pourrait peut-être y répondre. Comprenons-le bien, le chercheur n'est pas celui qui a une réponse à toutes nos questions, mais celui qui dédie sa vie à se les poser.
Merci Maki pour cette première, son premier témoignage qui explique le métier de chercheur. Donc nous sommes aujourd'hui 11 doctorants à être réunis ici, donc pour une première expérience radiophonique, pour vous parler de ce métier de chercheur, de la recherche scientifique. Alors avec moi, j'ai Estelle, Magali, Mathieu, Claire. Je vais vous poser une première question. La science expérimentale, la méthode scientifique, la vérité que les médias aiment bien reprendre, le fondamental, le critère de scientificité. Mais qu'est-ce que ça cache, tous ces gros mots ? Est-ce que ce sont des gros mots ? Est-ce que la science est si sérieuse ?
Bah, c'est vrai que ce sont des mots un petit peu soutenus ou un petit peu difficiles à comprendre pour tout le monde. Et surtout, ça, la recherche, ce n'est pas aussi mystérieux que ça peut le laisser paraître dans les médias ou dans ce qu'on entend. On est des personnes normales au quotidien. En fait, on a simplement un travail avec une spécificité, comme un cuisinier a sa spécificité, un journaliste aussi, etc. Par exemple, on va dire en recherche expérimentale comme la chimie, bah, au quotidien, on lance des réactions, on essaye des choses, on n'y arrive pas. C'est un quotidien qui peut paraître très fouillis, avec beaucoup de bazar, mais on arrive à en tirer des résultats, etc.
Mathieu, le bazar.
Ouais, c'est vrai que le bazar est le côté un peu bricolo du scientifique. Enfin, peut-être pas tous les scientifiques, je sais pas, c'est peut-être aussi la question aujourd'hui, mais le bazar en science expérimentale, du moins, je pense que ce bricolage, c'est inhérent au processus de recherche. Et peut-être qu'on en parle pas souvent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas souvent des gens qui me font ce retour vis-à-vis de mon métier. Mais alors, qu'est-ce que tu bricoles ? On me demande jamais ce que je bricole. On demande ce que je trouve plutôt. Et les gens savent pas vraiment qu'on a cette dimension un peu d'arrangement pour parvenir au résultat. Je sais pas si c'est partagé par toutes les disciplines. Dans le champ scientifique, je sais que Claire.
Oui, après, nous, sur la question du résultat, déjà, on part sur une grande question de départ, mais notre objet de recherche, il évolue au fil de notre cheminement. Donc, oui, c'est un petit peu fouillis à un certain moment, mais ça fait presque partie du protocole, cette première étape où on va déconstruire et évoluer autour de notre objet, essayer de mieux le comprendre et après seulement faire avancer notre sujet à partir de ces observations-là. Donc c'est vrai qu'au départ, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est du bricolage, mais il faut qu'il y ait une certaine souplesse et parfois se laisser un petit peu guider, quitte après à reconstruire, mais dans une autre étape, quoi.
Alors, je vous propose qu'on écoute les témoignages de plusieurs chercheurs, de Magali et Estelle, d'Anaïs, de Zilassène et de Mathieu. Et puis, on en parle après.
Estelle, j'ai un problème. Mon alkylation, elle n'a pas marché.
Ah oui, cette réaction d'alkylation, je l'avais tentée en première année, si je me souviens bien, et en fait, elle m'avait aussi posé problème.
Bah ouais, mais du coup, comment t'as fait pour résoudre le problème ?
Bah, si je suis franche, bah, j'ai pas essayé de le résoudre. En fait, j'avais une deuxième stratégie de synthèse en parallèle, celle de la seconde a fonctionné, et du coup, on a un peu passé sous silence le fait que l'alkylation, elle marche pas.
Ah ouais ? Ouais, je me disais, j'ai lu ta publication en plus, mais voilà, t'aurais pu le mettre, parce qu'au final, je la refais pour rire, quoi.
Ouais, c'est pas faux, mais en fait, tu verras au fur et à mesure de ta thèse, c'est une mauvaise habitude qu'on a, on ne publie pas les résultats qui fonctionnent pas, c'est un peu mal vu, on met vraiment ce qui marche, quoi.
Ouais, ouais. Mais du coup, je fais quoi ? J'essaie une autre méthode, une autre voie de synthèse ?
Là, si je me souviens, t'as utilisé quoi ? T'as utilisé une base et t'as utilisé NaH, hydrure de sodium.
Ouais, ouais.
À la limite, je te propose d'utiliser K2CO3, c'est une carbonate de potassium, c'est complètement bizarre comme proposition, mais en ce moment, j'ai fait deux manips avec, il a fonctionné, et ce serait pas incohérent que ça fonctionne pour le tien, pour ta manip peut-être, donc à la limite, profites-en, il nous porte chance, c'est le moment.
Ouais, on sait jamais. Puis après tout, la recherche, il y a quand même une petite part de chance, hein. Et on n'est pas vendredi 13.
Je ne bois jamais de café avant une expérience. Comprenez-moi bien, j'ai besoin de café. Il faut me voir, les yeux cernés et lorgnant avidement vers la cafetière, la langue accueillant par avance l'amertume salvatrice. Mais non, une expérience, une manipulation, ça demande du doigté. Ce n'est pas tant que je craigne le frémissement des ongles que provoque le kawa. C'est que le café, ça irrite les neurones. Et énervé, je suis comme un chat dans un jeu de quilles. Je sais que la manipulation sera désastreuse. Un carnage. Prophétie autoréalisatrice, évidemment. Mais cela reste un paramètre clé. Plus que la température de la pièce, 22°3, la surpression injectée, 500-600 pascal, l'hygrométrie, le temps séchage, 8 minutes 20, le génome, squash AX3, I4 GFP, squash cherry, torso 4, le paramètre clé de la réussite de mon expérience, c'est mon humeur.
Dans certaines recherches dans le domaine des ressources humaines, il faut parfois rencontrer les différents acteurs, faire des entretiens, observer ce qu'ils font au quotidien, donc trouver un terrain de recherche, et ce n'est pas une chose simple. Au début de ce type de recherche, on n'a pas nos microscopes, nos produits chimiques ou des bases de données qui nous attendent gentiment au labo pour les manipuler et les utiliser. On doit aller chercher les données, même négocier pour qu'un terrain nous soit ouvert. On a un sujet qu'on souhaite étudier, qu'on veut comprendre, expliquer. Mais pendant une période, certaines portes restent fermées. Du coup, apparaît ce sentiment de frustration, justement. Pourquoi une frustration ? Car l'essence même d'un chercheur, si je puis dire, c'est de chercher, d'avoir des données, de les utiliser. Mais pendant une période, on ne peut pas. Alors on essaye de lire ce qui a été déjà fait sur le sujet en question. Parce que c'est déjà une étape importante dans le travail d'un chercheur, mais aussi pour se dire justement qu'on fait quelque chose. Cela n'est toutefois pas suffisant, il nous faut ce terrain. Si on n'est pas confronté à la réalité du terrain, la réflexion sur le sujet ne peut mûrir. Cette frustration alimente pendant un moment un certain chaos, un sentiment d'aller dans tous les sens, car sans les problématiques propres à un terrain, nos questions de recherche ne peuvent pas être stabilisées. Alors, pour éviter d'exploser en éclats, ou que cette frustration ait raison de nous, il faut s'armer de patience, et toujours rester déterminé. Il faut aussi souligner que, pendant cette période, les autres chercheurs doctorants du labo, notre directeur, directrice de thèse, nous soutiennent et nous aident à trouver ce fameux terrain, jusqu'au moment où on le trouve et que notre recherche peut désormais commencer.
Sur le papier, je bosse en optique. En optique de haute précision, quasiment ce que l'on sait faire de mieux. Pourtant, si vous rentrez dans ma salle de manip, qui fait mon quotidien, vous vous demanderez sans doute comment l'on peut faire de la physique de haute précision dans un tel bazar. C'est une chose qui m'a beaucoup dérangé et intrigué à mes débuts dans ce labo. Mais rapidement, je me suis rendu compte de la puissance du désordre dans une expérience comme la mienne. Je travaille avec la lumière. Je dois pouvoir être à même de lui faire faire à peu près ce que je veux. Nous sommes donc équipés de miroirs en tout genre, supports, fibres optiques et autres appareils de mesure ou de contrôle. L'objectif de cette manip est, sur le plan scientifique, parfaitement défini, et les appareils et outils a priori tout cela. Ce qui est absent cependant, c'est le chemin qui va me mener vers cet objectif. J'ai une petite idée certes, mais dans cette exploration, je souhaite pouvoir m'engager sur à peu près n'importe quel chemin, tester chacun d'eux après avoir suggéré par l'hypothèse et le raisonnement scientifique leur destination. Parfois aussi, l'intuition prend le pas sur le raisonnement, et je pars dans une direction comme ça, parce que je le sens bien. Pas le temps de soumettre cette hypothèse au test du raisonnement, je vais le faire, puis je verrai bien. Il faut donc que je sois libre de pouvoir aller ici et là, pas seulement par la pensée, mais bien in situ sur le banc optique. Alors parfois je bricole un support d'optique, ou même j'en peux fabriquer un nouveau, à la main, à la fraiseuse, puis je viens y fixer un miroir, à la glue car les pas de vis ne sont plus ceux d'un catalogue de fournisseurs bien défini. En somme, l'expérience est un objet auquel le chercheur donne vie. Dans ce processus, bazar et bricolage sont inévitables. Ils permettent de mener celle-ci où l'on souhaite. Ce bazar est libre, mais tout de même soumis à l'œil attentif du chercheur, évitant à tout prix le chaos, qui, on le sait, peut facilement naître du désordre et noyer tout raisonnement rationnel.
Les laboratoires de recherche sont remplis d'instruments de haute technologie. Systématiquement, quand je visitais des laboratoires à la recherche d'un projet de thèse, on me montrait d'abord fièrement la plateforme imagerie. Une pièce où les rideaux noirs font un écrin à de grosses boîtes de plastique blanc, pourvues de lentilles, d'objectifs, de lasers, le tout du prix d'une maison. Des microscopes rutilants. Le PALM, microscopie de fluorescence par localisation photoactivée, le TIRF, microscopie par réflexion totale interne, le STED, microscopie à balayage de déplétion par émission stimulée. Et le HIC, c'est qu'aucun ne convient pour l'expérience que je veux faire. J'ai besoin d'observer des embryons sous tous les angles, toutes les coutures. Je décide de faire tenir les embryons en équilibre sur leur tête. Enfin, à ce stade du développement, ils n'ont ni queue ni tête. Alors je coule du plastique dans des moules, je le découpe à la main, au cutter, et soigneusement je dispose des petits triangles de plastique les uns sur les autres, en équilibre précaire. Un château de cartes. Et ça tient. Depuis, on a un nouveau microscope, une autre grosse boîte rutilante, un SPIM. Et bam, mon château de cartes se casse la gueule. Inutile. Mais si vous me demandez aujourd'hui quelle est des deux la technologie la plus raffinée, la plus précise, le genre à faire voler les avions, je jurerai que c'est mon château de cartes. J'essaierai de justifier, argument 1, grand 1 petit 1, grand 2 petit b, grand A petit c, mais c'est tout simplement subjectif. J'aime mieux mes châteaux de cartes. Désormais, quand je prends l'avion, je me demande si les scientifiques qui les font voler ont, eux aussi, leur château de cartes.
Alors après ces témoignages, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même une partie un petit peu aléatoire, bricolage. Le bazar est revenu.
Ouais.
On voit clair sur le terrain, les choses se construisent au fur et à mesure. Estelle et Magali.
Concrètement, un petit peu ce qu'on peut dire de la recherche et ce qui ressort un petit peu, c'est on a un côté un petit où on est quelquefois frustré de ne pas réussir. Il y a plusieurs anecdotes qui peuvent expliquer ça. Enfin, quand on essaye de synthétiser des molécules en chimie, bon, ça ne marche pas tout le temps, ou une fois ça fonctionne, le deuxième essai n'est pas concluant, etc. Donc on a un côté très très frustrant dans la recherche, qui au final en fait, c'est ça qui nous fait en quelque sorte vibrer, enfin, qui est ça qui nous donne envie de continuer à chercher, on a envie de se poser des questions, on a envie d'essayer de trouver des solutions, même si on n'y arrive pas. Et ce quotidien où on se pose des questions sans forcément aboutir, c'est quelque chose d'un peu incompris, d'un peu caché dans la communication scientifique, on ne le dit pas, on aboutit simplement sur ce qu'on a réussi à faire. Et alors qu'au final, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous donne envie de faire ce métier ou de faire ce travail au quotidien, c'est toujours se poser des questions, de toujours être remis en question, etc. Et j'ai l'impression que ce message-là, il passe pas, qu'on le montre pas assez.
Ouais, oui. Ouais, c'est vrai que, si je peux rebondir rapidement, c'est vrai que la méthode scientifique telle qu'on la connaît, je pense de manière un peu classique, académique du moins, celle auquel on a été formé, n'intègre pas vraiment cette dimension un peu de liberté, quoi. De liberté, que le bricolage est un des symptômes de liberté du processus de recherche. Je pense qu'il y en a plein d'autres, suivant les champs, mais c'est vrai que la méthode scientifique, c'est quelque chose d'assez froid, carré, cartésien et droit. Mais dans l'expérience, je pense que la liberté est nécessaire, associée à peut-être un peu de créativité. C'est ça qui, ouais, on a pu l'entendre, fait un peu de bazar, nous permet de bricoler. Alors, dans l'expérience, c'est physiquement compréhensible et visible. Toi, Claire, tu disais que c'était plus un bricolage peut-être dans la pensée, un fouillis de connaissances qu'il faut ensuite resynthétiser. Mais je pense que tout ça, c'est un peu commun. Il faut mettre un pied dehors, en dehors de la méthode scientifique très carrée, pour pouvoir y revenir ensuite et avoir des résultats ou des nouveaux chemins de recherche. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est comme ça que la recherche se dessine. Et c'est quelque chose, comme tu le disais, Estelle, qui transparaît pas dans le monde de tous les jours, quoi. Qu'on n'en parle pas de ces choses-là. Et en fait, elles sont bien présentes. Et c'est ça qui nous... Je pense que c'est une des principales sources de motivation. Enfin, je parle pour moi, du moins.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Ouais, dans le processus de recherche, quoi. Comme tu dis, cette frustration qui, en fait, est galvanisante, quoi. Qui est excitante et qui fait vibrer, quoi.
Oui, c'est vrai qu'aussi, pour ma part, on dit qu'on a une méthode scientifique bien rigoureuse. Mais parfois, en fait, on jongle en fait, un peu entre les méthodes pour, au final, se faire sa propre méthode. Et généralement, c'est là où on se sent le mieux. C'est là où c'est là qu'on a vraiment le plaisir d'exercer notre recherche, en fait. C'est on se fait sa méthode, on arrive à ses résultats. Et du coup, on s'approprie un peu, en fait, on fait notre recherche. Je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde autour de cette table. C'est vraiment, en fait, on a notre sujet et quel plaisir, en fait, c'était de se faire sa recherche. Je ne sais pas, par exemple, Claire,
Ah oui, c'est vrai que c'est très excitant parce que on va tout construire de bout en bout, alors même si on doit quand même répondre à une certaine rationalité et aboutir à une forme de vérité, en tout cas en sciences sociales. Pas forcément une vérité absolue, mais oui, c'est très excitant parce que dès le départ, on construit notre objet, on va aussi là vers où on veut aller et vers où on est amené à aller. Et c'est vrai que même s'il y a des grands moments parfois de stress qui sont aussi liés à ça, mais oui, il y a beaucoup de plaisir à aller sur le terrain, à rencontrer des gens et à se laisser porter aussi un moment, quoi.
Donc en fait, on se laisse porter, on est quand même très acteur de ce qu'on fait parce qu'on le voit sur le terrain ou même ou dans les labos, il va falloir à un moment donné prendre les rênes, mais tout en gardant un moment de créativité.
C'est ça.
Voilà, donc on a nos connaissances, ce qui va arriver, ce qu'on peut impulser en tant que personne. En fait, la personnalité du chercheur, elle joue aussi.
Oui, c'est sûr. Ça peut dépendre aussi, ouais, de nos humeurs. On est parfois un peu inspiré par notre domaine. Une question, on va plus avoir une intuition comme ça et on va se laisser guider par cette intuition. Alors parfois, c'est pas la bonne intuition, simplement. Mmh. Mais c'est pas grave, on rebondit, on a une seconde intuition. Et puis on va se rediriger plutôt pour prouver celle-ci. Et puis, donc, ah bah non, c'est pas la bonne, c'est pas grave, encore une autre. Et au bout d'un moment, ça paye. C'est ça, on y met de la personnalité, on y met du cœur, en tout cas, à le faire. Forcément notre tête, hein, on y est forcé. Parce qu'on s'appuie quand même sur des connaissances, hein, des intuitions. Ce n'est pas des intuitions... comme on pourrait avoir parfois dans la vie de tous les jours, on est basé quand même sur des connaissances.
Oui, alors moi, si je peux me permettre, suis intervenue. Bonjour, je me présente, Manon.
Bienvenue.
Moi, j'aimerais quand même, ça me rend un peu perplexe tout ça, vous parlez de plaisir à bricoler, que c'est quand même assez frustrant, mais en même temps, c'est assez satisfaisant. Moi, personnellement, quand je bricole... Moi, c'est pas forcément plaisant pour moi. Je me sens pas à l'aise dans le fouillis, notamment parce que je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Enfin, du moins, moi, dans mon domaine. Alors, moi, je suis en psychologie sociale, je sais pas. Mais clairement, moi, on me dit, je te laisse dans ton bazar, mais ressors-en vite quand même. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est la contrainte de temps. Je sais qu'on est tous en thèse, pas dans les mêmes années. Une thèse, généralement, c'est 3 ans. Moi, on me dit, pas plus. Voilà, c'est mieux que ce soit en fait en 3 ans. Et clairement, je n'ai pas la sensation que le bricolage soit aussi bien vu dans mon domaine, personnellement. Et du coup, j'aimerais discuter avec vous de ça, de ce plaisir que vous ressentez à bricoler et en quoi c'est plaisant tout ça.
Ouais, alors rapidement, si je peux rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça assez intéressant, ça questionne un peu parce que, il me semble que ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à la méthode scientifique, justement, je pense qu'effectivement, il faut un peu moduler ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a un espace de créativité, un espace de bazar, de bricolage, de fouillis, on y met un peu le mot qu'on veut, je pense qu'on a saisi l'idée. Mais c'est là, je pense, toute l'agilité que doit avoir le chercheur, c'est d'aller dans cet espace et de revenir, de savoir revenir à temps dans l'espace un peu du raisonnement et de celui qui va le cadrer. Et comme tu dis, qui va lui permettre de faire sa thèse en 3 ans et pas en 10 et pas en 4. Effectivement, on a tous des années bien définies, on a un résultat qu'on cherche. Et c'est pas dans le bazar qu'on va trouver ce résultat. Mais c'est ce bazar qui va nous permettre de l'avoir, et ce bricolage. Donc je pense qu'effectivement, tu soulignes un point intéressant, c'est qu'il faut acquérir ce savoir-faire un peu délicat, je pense, d'être méthodique et un peu froid comme la science, si tant est qu'elle le soit, pour aller un peu chercher ailleurs en restant bien carré, quoi, bien scientifique.
Parce qu'après, clairement... Je suis d'accord, hein, le bazar, je suis d'accord sur le fait qu'on bricole un peu tous, quels que soient les domaines. Mais en quoi on est légitime, du coup? Parce que je pense que ce n'est pas très, très parlant déjà pour tout le monde de se dire qu'un chercheur bricole. Voilà, ce n'est pas un mécano non plus, c'est quelqu'un qui se doit d'avoir une certaine culture scientifique et de savoir où il va. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'image partagée, quoi. Et en quoi... Du coup, de nous partager ces témoignages-là sur le fait qu'on bricole, ben, ça nous rend finalement légitime. Pourquoi on s'adresserait à nous, du coup, pour répondre à certaines questions si finalement, ben, on ne sait pas forcément où on va, on bricole, on est créatif, voilà. En quoi on est légitime, du coup? Moi, c'est ça qui m'interpelle, là.
Moi, je propose qu'on écoute, les témoignages, les petits récits de vie de Claire, de Abdoulaye, de Frédia, de Manon et de Frédéric. Et à partir de là, on aura peut-être de nouveau de la matière pour continuer le débat.
Vous êtes des producteurs de données, plus des consommateurs. Premier jour de master recherche, évidemment, j'étais en retard. Cette phrase me sera 100 fois répétée et inspira chez moi à la fois excitation et motivation. Première séance de préparation de recherche. Félicitations, vous avez tout compris, c'est vraiment original. Vous utilisez des connaissances dans un autre domaine pour l'appliquer sur un autre terrain. J'étais assez fière. Un mois après, des jours pour écrire un mail à mon directeur. Comment je vais rentrer sur le terrain en Jordanie? Ceux sur lesquels je travaille ne siègent plus à l'Assemblée pour le moment. On est en novembre, je dois partir en janvier. J'écris toute ma panique et mes craintes, et j'ai juste envie de lui dire « Vous avez mal vu, je ne sais pas faire ça ». 3 jours à me ronger les sangs. Et là, sa réponse. « Vous avez beaucoup avancé, la recherche c'est ça ». Et il me cite. « Plus j'avance sur mon sujet... plus je m'aperçois que tout ce que je pensais était faux. Il faut tout reprendre. » Et il continue. « Si vous pensez que le phénomène est à la fois observable sur un autre terrain, allez-y. » Je décide donc de parler avec le grand spécialiste dans mon domaine, celui qui deviendra plus tard l'une des personnes les plus importantes de ma vie, mon futur directeur de thèse. Il me presse d'avancer, de choisir, il me fait peur. Je lui explique mon dilemme et il me lance laconique. « Oui, pourquoi pas l'Algérie ?» 1 mois et demi pour me préparer, et ça y est, je suis sur le terrain. J'appelle, j'envoie des mails. Personne ne veut me recevoir, pas d'entretien. Rien pendant 10 jours. Je me demande juste ce que je fais là. Pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose d'aussi dur? C'est pas plus mal d'être juste consommateur, finalement. J'appelle mes camarades sur le terrain, en Palestine, en Tunisie, au Maroc. Mêmes angoisses. On pleure par Skype et on rit beaucoup. Et là, tant pis. Il faut agir, ne pas rentrer sans rien. Je suis sur tous les fronts, je mobilise des tas de personnes. J'ai un travail à accomplir et c'est mon seul objectif. Et ce le sera nuit et jour pendant 2 mois. Premier entretien sur le terrain. Je suis à l'Assemblée, mon dictaphone lâche. J'angoisse. Et toujours cette question, mais qu'est-ce que je fais là? Il doit bien savoir que je ne sais rien, que je ne suis rien. Mais non, il me parle comme si j'étais une grande spécialiste.
Et donc, je fais comme si c'était le cas. Je suis comme au théâtre et je joue. Je commence à m'habiter. Je deviens comme un chercheur. Je fonce, je fais comme si je n'avais plus peur de rien, alors que je suis tétanisée à chaque fois. On me soupçonne d'être un agent, un journaliste. On me questionne, on se méfie, on pleure devant moi, on me drague, et parfois même c'est moi qui me retrouve à les impressionner. Journaliste, ministre, député, entretien, déjeuner, mobilisation, je vis tout, je capte toutes les infos, je me laisse porter. Et pourtant, à chaque fois, même angoisse. Je rentre, j'écris mon premier travail de recherche, mon bébé. Je le déteste. J'en retravaille chaque mot. Je pense à tous ceux qui vont le lire. Et là, miracle. Mes futurs directeurs me félicitent. Maintenant, il faut que ça devienne une thèse. C'est mon métier et l'État me paie pour ça. Je dois écrire ma profession sur le formulaire de la Sécu et je ris intérieurement. Chercheur en sciences politiques. Listen, brothers. This has got a lot to do with it. And my sister. It also does concern you. Dans la ville, dans la société, souvent en fait on est vu comme des sauveurs, c'est-à-dire un homme qui sait tout faire et qui doit être à mesure de répondre à toutes les questions et immédiatement. C'est-à-dire on ne lui donne pas même le temps de réfléchir, c'est comme si il a les réponses et qu'il doit répondre à tout et tout de suite. Mais dans la réalité de la recherche, ce n'est pas le cas. En fait, même si il y a une interdépendance entre les sciences, nous avons tous dans un domaine dans lequel nous sommes censés faire la recherche. Et pour la petite histoire, une fois j'étais dans la rue, on m'a appelé pour résoudre un problème en algèbre. Alors je leur ai expliqué que ça c'est très vaste, il a fallu du temps pour leur faire voir qu'il y a l'algèbre, il y a l'analyse harmonique, il y a la géométrie vectorielle, il y a la statistique et tout ça. Et moi, je fais la statistique. Et ce que vous m'avez demandé de faire, ce n'est pas la statistique, c'est de l'algèbre. Et moi, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas le faire. Quand j'ai dit ça, les jeunes ils n'arrivaient pas à voir. Ils pensaient que je refusais. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on me dise tout le temps le chercheur, c'est le mathématicien et tout, et que je n'arrive pas à résoudre les exercices. Algèbre quoi. Donc, et ce cas n'est pas un cas isolé. Il y a même des gens qui nous le disent tout le temps, des gens qui font informatique exemple. Ils rencontrent ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire, on les voit, on les dit, ah oui, mon code, je l'ai oublié. Est-ce que vous pouvez les récupérer? Ben, lui, il ne fait pas ça, en fait. Il fait l'informatique, mais il ne sait pas comment retrouver un oublié ou comment réparer un ordinateur qui ne fonctionne pas. Donc, on est vu comme un sauveur dans tout. Et ce n'est pas le cas. En réalité, on a des
domaine spécifique dans lequel nous faisons une recherche, quoi. Voilà, c'est un peu ça, les mots sauveurs. Can you see now? The time is right
now, right now. No time to... Lorsque je me présente en général en tant que doctorant, voilà les questions auxquelles j'ai droit. Tu travailles sur la crise économique, alors dis-moi, quelles sont ses causes, comment la résoudre? Que penses-tu de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne? Que de grandes questions. En début de thèse, c'était plutôt flatteur qu'on veuille avoir mon avis sur tel ou tel sujet, mais plus les mois passent, plus je me rends compte de l'immensité de mon domaine de recherche. Je me rends compte que tout n'est pas noir ou blanc. Et répondre à toutes ces questions implique tellement de paramètres, d'hypothèses, de subtilités qu'on pourrait faire une vingtaine de thèses avec ces différents sujets. Alors commence un exercice d'équilibriste pour essayer de répondre au mieux, en vérité, à ces questions tout en restant simple, ce qui n'est pas du tout évident. Actuellement, en dernière année de thèse, j'avoue que j'y travaille toujours, comme quoi on ne finit jamais d'apprendre. Et ça, c'est valable aussi pour le chercheur.
Alors moi, j'ai un souvenir qui me revient, c'est... Je suis en dimanche midi en famille, voilà, dimanche classique, et puis ma tante intervient et me dit « Alors Manon, comment ça se passe cette recherche? Est-ce que tu trouves ?» Alors là,
la fameuse question.
La question, alors cette question, déjà je ne me la pose pas, voilà, c'est clairement quelque chose qu'on ne se pose pas forcément tout seul, et j'ai compris aussi que dans mon environnement professionnel, on me la pose pas du tout non plus. C'est pas quelque chose qui revient dans les couloirs. Alors, tu as trouvé. Voilà, c'est pas classique. Et moi, donc, je lui réponds oui, ça avance, mais je ne savais pas quoi dire de plus parce que je n'avais rien à dire en fait. Finalement, je ne pouvais pas lui dire oui, Tati. J'ai trouvé que ma variable X avait un effet sur ma variable Y, que tout ça va m'amener à... ça, c'était pas possible de lui expliquer. Alors, non pas parce que je me suis dit qu'elle allait pas comprendre, que mon langage allait être trop compliqué, mais parce que tout simplement, je ne pouvais pas lui répondre. C'est quelque chose qu'il faut casser un petit peu dans la société, cette image-là. On n'est pas forcément obligé, en tant que chercheur, d'amener un... point A à un point B. On a aussi plusieurs chemins à partir d'un résultat et il est compliqué pour nous de concrétiser quand on nous pose cette question, est-ce que tu as trouvé? Et moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai vu la réaction de ma tante à ce moment-là, c'est qu'elle a dû se dire, mais elle me répond pas parce que, en fait, finalement, elle pense que je suis pas capable de comprendre. Parce que finalement, c'est ce qu'on doit renvoyer. C'est un petit peu comme, moi, ça me fait penser quand une maman répond à son enfant à une question un peu délicate, qui lui demande, je ne sais pas quelle question, mais qu'elle va répondre, ben, tu verras quand tu seras plus grand. Je pense que chez l'enfant, ça crée cette sensation de tu ne peux pas comprendre. Alors qu'en fait, c'est la maman qui est en plein doute à ce moment-là. Et c'est un petit peu ce qui me renvoie dans cette anecdote, c'est ça. C'est, nous, on doute en perpétuité, et finalement, quand on nous pose des questions, il faut faire... comme si on ne doute pas, quoi. Comme si c'est naturellement faisable de répondre, quoi. Voilà. She must be a very busy woman. She never stops. Things always coming up and she always has to
be there. She's a nice little girl. She's wonderful. J'étudie la communication de la transition écologique. Différents paramètres me frappent dans cette communication. Comme par exemple, la mise en lumière des acteurs de la société civile, les héros ordinaires, leurs actions. Pour moi, c'est nouveau, par rapport à la communication environnementale de ces 20 dernières années. Et puis, je découvre un ouvrage de Serge Moscovici sur les minorités actives. Il explique que le mouvement écologique est une minorité active, il explique le concept, le rôle, etc. Il l'a écrit dans les années 70, et donc c'est pas nouveau. Là, j'entends ma directrice de thèse. Frédéric, il faut lire. La transition écologique peut être catégorisée. Techno-centriste, aménagiste, ou écocentriste. Ce mouvement écocentriste mise sur l'innovation à une échelle locale. Il incite les citoyens, les villes, à être plus autonomes. Leur argument, leur désir d'interdépendance, de décentralisation, de démocratie directe, eh bien ça s'appelle l'écologie sociale, théorisée par Murray Bookchin dans les années 60. C'est pas nouveau. Il faut lire Frédéric. Voilà, je suis ravie, je suis une inculte, mon sujet n'a pas fini de me surprendre, et mes intuitions ratées font avancer mon travail. Quel programme ! Quand je parle de mon sujet, on me dit parfois « Ah, moi, j'aime la nature, mais pas l'écologie. » Bon, alors, mon intuition est que les sciences de la communication, entre autres, en écologie, ont de belles années devant elles.
Donc, nous venons d'entendre les témoignages de Frédéric, Claire, Abdoulaye, Fredia. Nous sommes cinq autour de la table ici pour discuter justement de ces témoignages. Donc, nous avons avec nous Abdoulaye, Dilassem, Fredia et Anaïs. Moi, ce que je retrouve dans tous ces témoignages, c'est que finalement, on n'a pas la même façon de se positionner donc, dans la société en tant que chercheur. On a une certaine place qui n'est pas forcément légitime. Et j'aimerais bien discuter avec vous de cette place-là qu'on peut avoir, vous qui êtes de domaines assez différents. Donc, je laisse la parole à Anaïs.
Oui, du coup, moi, je pense que c'est une question très importante, ça, la légitimité qu'a le scientifique dans l'espace public. Parce qu'on voit fleurir partout cette figure de l'expert qui a réponse à tout, qui sait plein de choses. Et alors, moi, c'est une petite anecdote dont j'aimerais bien discuter avec vous maintenant. C'est dans le cadre du mouvement Nuit Debout qu'il y a actuellement, on voit des scientifiques rassemblés sous le nom Science Debout qui se baladent sur les places publiques avec des pancartes qui disent « je suis scientifique », alors par exemple « je suis physicien », mais aussi « je suis chercheur en sciences politiques » ou autre. « Posez-moi vos questions ». Alors ça, moi, ça m'a un peu choquée, beaucoup plus sur la forme que sur le contenu, parce que le fait qu'on doit communiquer nos sciences à l'extérieur, je trouve ça tout à fait bien. Mais cette pancarte, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce scientifique qui a réponse à tout, qui peut répondre à toutes les questions de tout le monde? Et puis finalement, cette pancarte, est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt dire « je suis scientifique, dites-moi ce que je dois faire ». Voilà.
On parle bien ici du problème de qu'est-ce qu'on doit répondre. Dilassem.
Alors, c'est pas plus qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'après, l'idée du scientifique, c'est pas forcément d'apporter tout le temps la vérité. En fait, je voudrais nuancer un peu ton propos, Anaïs. Parce que, certes, le scientifique fait des recherches, prend du temps à faire ses recherches, du coup, explore certaines thématiques. Et l'idée, je pense, dans une période pas très rose, c'est aussi dans la société, les gens vont penser que les scientifiques vont avoir réponse à tout, vont essayer de chercher une certaine assurance, vont essayer de se rassurer auprès des scientifiques parce qu'ils passent beaucoup de temps dans leur thématique. Alors c'est là où il faudra nuancer un peu les choses en disant qu'effectivement on pourra savoir certaines choses parce qu'on travaille sur ces choses-là, mais qu'on ne peut pas donner des réponses à tout et que c'est important de bien dire sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit dire et un peu nuancer un peu les choses. Pas dire qu'on ne peut rien dire et pas dire non plus qu'on peut tout dire en fait.
Après, cette figure du prêtre moderne qui rassure les foules, je trouve ça super dangereux. Enfin, moi, personnellement, je me sens légitime seulement pour parler vraiment très précisément de mon sujet de thèse et rien d'autre.
Alors, Abdoulaye souhaite réagir.
Oui. Effectivement, ces questions reviennent tout le temps, mais moi, en réalité, je pense qu'il faut faire la différence entre la science et la recherche scientifique. C'est différent, en fait. La science, c'est comme les résultats de la recherche scientifique. Et on peut répondre parce que ce sont des recherches qui ont donné des résultats. Donc, on peut répondre. Mais la recherche, on ne peut pas répondre à des questions de recherche tout de suite parce qu'on ne connaît pas, on cherche. Donc, moi, je pense que c'est rare de voir un chercheur scientifique qui va s'hazarder à aller répondre à des questions, quoi. C'est un peu ça. C'est donc il faut réellement faire la différence entre la science et la recherche scientifique. C'est deux concepts différents.
Oui, je suis voilà. D'accord. Et par contre, moi, là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que ce que nous disait Anaïs, c'est qu'on ne peut pas répondre non plus sur tous les domaines. Alors effectivement, on peut répondre un peu en termes de science, puisqu'il y a des résultats qui sortent de la science, mais quand même, on est restreint à notre domaine. Alors je ne sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre veut parler un peu d'anecdotes ou de situations qu'ils ont vécues, où ils ont dû être confrontés à des questions sur différents domaines.
Après, enfin, y a aussi, et je ne sais pas si ça va vraiment aider, mais il y a aussi un peu l'image du chercheur en général dans la société. Et parfois, on se dit, quand quelqu'un fait de la physique, fait de l'informatique, on voit bien son utilité. Alors que parfois, dans certaines disciplines, et je parle pour moi, par exemple en gestion, quand je dis que je fais un doctorat, on fait « Ah, c'est génial !» et tout. Et après, quand je dis « Mais je fais un doctorat en gestion, ah, mais en fait, ça sert à quoi ?» Alors, c'est un peu... Il faut... Je pense que ça dépend beaucoup et qu'après, l'idée aussi du chercheur, c'est à lui d'expliquer ce qu'il fait, ce qu'il ne peut pas faire. Enfin, il faut aussi qu'il soit humble aussi, parce que parfois on a des chercheurs avec des échos surdimensionnés. Mais savoir ce qu'on peut apporter, ce qu'on ne peut pas apporter, et le dire clairement, sans tabou, et rester clair là-dessus, quoi.
Ouais.
J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que parfois aussi, c'est les autres qui nous interpellent sur notre légitimité, parfois. En fait, on nous pose la question, des fois, c'est un peu du défi. Vu que tu fais de la recherche, tu es censé savoir. Donc, dans cette posture-là, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer toujours que c'est forcément dans un certain domaine restreint et que ce n'est pas forcément audible pour tout le monde et compréhensible pour tout le monde. Donc, voilà.
D'accord. Maki vient de nous rejoindre sur le plateau.
Bonjour.
Est-ce que tu veux parler un peu de tout ce qu'on vient de parler?
Oui, alors je vous rejoins juste pour répondre sur cette question de légitimité. Parce que, subjectivement, je pense que la communication scientifique, c'est une des fonctions du chercheur. Alors, ici, d'accord, son savoir n'est pas que pour lui. Ça fait partie de l'exercice du chercheur de communiquer ce savoir-là. Et donc, ça me dérange, dans le fond, ça ne me dérange pas tellement cette initiative de recherche debout, des gens qui s'estiment compétents sur certains domaines, vont dans le public et partagent leurs connaissances. Pour moi, le vrai problème dans cet exercice de communication, c'est que une certaine crédibilité est accordée aux chercheurs et que sa parole puisse être employée comme argument d'autorité, hein, instrumentalisée sur des questions de société qui pourraient peut-être soulever des problématiques d'éthique, par exemple.
Du coup... Là, si j'entends ce que tu dis, tu as plus une posture compréhensible de ce mouvement, sachant qu'il y aurait peut-être des améliorations à apporter dans la façon de communiquer. C'est là un petit peu le dur labeur du chercheur, c'est d'apprendre maintenant qu'il sait que il n'a pas tous les droits, voilà, il l'a conscientisé tout ça, il n'est pas légitime pour tout. Par contre, le communiquer pour que les gens le comprennent sur quel point il est légitime et quelle position, ça c'est quelque chose qu'il est capable de travailler parce que c'est au final un défaut de communication, selon toi, un petit peu.
Alors, je ne vois pas tellement de défauts là, dans cette initiative. Je penserais même que n'importe qui se considérerait compétent dans n'importe quel domaine, pas forcément, qui n'aurait pas besoin nécessairement d'être chercheur, pourrait aller dans la rue et dire... les gars, je m'y connais bien en plantes, posez-moi vos questions. D'accord ? Toutefois, quand même, en précisant, quand même, d'une certaine façon, en précisant quelles compétences il a sur le domaine. Alors, il y a en effet, justement, la question ne se soulève pas pour les chercheurs, parce que c'est des chercheurs. On les estime automatiquement compétents dans leur domaine. Ouais.
Et pas forcément dans leur domaine, c'est ce que tu dis. Quelqu'un qui est jardinier, on sait qu'il a son domaine restreint. Le chercheur, mine de rien, il y a tellement de vastes domaines à explorer qu'on n'est pas conscient de la spécificité. Chose qu'on a peut-être un peu plus en médecine. On sait que un petit peu plus, quoi. Quand on s'adresse à un médecin généraliste, on sait qu'il fait du général. Quand on s'adresse à un cardiologue, on sait qu'il a sa spécificité. Nous, en tant que chercheurs, on a la légitimité un petit peu pour plusieurs domaines non définis, quoi. J'ai l'impression. Après, Abdoulaye.
Oui, Tout à fait, hein, parce que quand tu es chercheur et que tu es dans la rue, les gens te posent n'importe quelle question, quoi. C'est la recherche. Donc, tu ne peux pas tout répondre de façon sûre. Tu peux juste peut-être donner une idée sur le sujet, mais tu ne peux pas répondre vraiment de façon exacte, quoi.
Ouais.
Ouais,
l'exactitude
ouais.
ne fait pas de nous. Ouais. Et j'aimais beaucoup ton parallèle sur la science et la recherche, quoi. Ouais. Effectivement, il y a de la recherche dans toutes les disciplines, finalement. Peut-être qu'un jardinier, bah, il va faire de la recherche pour mieux faire pousser ses plantes. Un cuisinier va peut-être élaborer tout un protocole de recherche pour établir ses plats. Et finalement, nous, quand on dit qu'on fait de la recherche, c'est un statut en soi. C'est pas dynamique, c'est assez un état de fait, finalement. Mmh. Alors que c'est exactement ce que tu disais, il y a la science qui est établie et le processus de recherche. Et peut-être que cette distinction-là, elle doit être importante à communiquer et importante à se positionner, quoi. On est sur quelque chose qui bricole, on l'a vu juste avant, qui est dynamique et qui a un processus en choix qui peut être utilisé par beaucoup de disciplines différentes. Ben merci à tous pour cette intervention. Nous avions à notre table pour le rappeler, donc 11 doctorants issus de domaines très variés, à la fois en sciences dures, à la fois en sciences plutôt humaines et sociales. Donc on a vu que la richesse de ces discussions a amené sur des points communs qui se retrouvent entre les disciplines. Voilà, c'est ce que l'on a pu remarquer. Pour conclure cette émission, nous allons demander à Maki de nous faire part de son petit témoignage.
De A à V, de l'aléa, le hasard qui fait marcher une expérience, la consommation de café qui l'a fait échouer, les bonnes ou mauvaises intuitions, le doute, la frustration permanente, le quotidien du chercheur est semé d'obstacles, de questionnements, d'angoisses, de problèmes et soulève souvent des problématiques. Quelle crédibilité accorder à la recherche? Quelle est la légitimité du chercheur? Quelle est sa place dans la société? Alors pourquoi s'engager dans une voie aussi épineuse, on pourrait se demander. Répondons à cela que la recherche, c'est aussi une passion. Une passion qui écarte le doute, une passion qui redonne le courage après la frustration, une passion qui anime ce don de soi au service de la connaissance, de la science, de la société et peut-être même de l'humanité.
Vous venez d'écouter la deuxième édition de Profession chercheur sur Radio Grenouille. Étaient présents pour cette émission Magali, doctorante en chimie supramoléculaire, Manon en psychologie sociale, Abdoulaye, doctorant en biostatistique, Fredia en macroéconomie, Anaïs en biophysique, Estelle, doctorante en chimie de synthèse, Frédéric en sciences de l'information et de la communication, Mathieu en physique des interactions laser-atomes, Zilassène en sciences de gestion, Claire en sciences politiques et El Maki en informatique. Une réflexion menée sur plusieurs jours et impulsée par Grégoire Molinati, Philippe R, tous deux maîtres de conférence en sciences de la communication, ainsi que Nicolas Chevassu, journaliste, Jérôme Mathéo, journaliste et producteur. Nous les remercions d'avoir partagé leurs idées et savoir-faire avec nous. Cette production radiophonique fut permise par l'ensemble de la structure de Radio Grenouille, réalisée par Sébastien et Jean-Baptiste, qui furent nos chefs d'orchestre, accordant nos voix parfois fébriles de cette première expérience derrière les micros. Merci à tous, et merci surtout à vous de nous avoir écoutés sur les ondes de Grenouille.
Tous les podcasts D38, radiogrenouille.com.